This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
محليا راديو روزانا في باريس.
مادونا راديو جلوبال.
From CNN Radio 7.
راديو داشا.
O Brasil quer se quinta.
Turquia fotora.
Slava.
Россия.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui, sous forme de retour au Burundi, une nouvelle fois dans le partout ailleurs d'Éric Valmire. La fabrique du nouveau monde de Dominique André quittera la Terre ce soir, direction l'espace, le grand, le vaste espace. Reportage en Corée du Sud, dans la seule usine au monde qui clone des chiens. Les explications, ouais, il y a besoin d'explications, de Frédéric Ojardias. À 18h55, l'édito d'Alain Frachon, il arrive avec des nouvelles plutôt bonnes pour l'Europe, c'est assez rare pour en parler. Mais tout de suite, les États-Unis, la France, la surveillance des citoyens et de leurs données.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Le très controversé projet de loi sur le renseignement a été adopté aujourd'hui par le Sénat français à une très nette majorité, 251 voix pour, 68 voix contre, oui, c'est bien cela. Si on regarde le détail, ce sont les socialistes et les ex-UMP qui ont surtout apporté leur soutien au texte, le Front de gauche et les Verts votant contre, l'UDI au centre étant divisé. La suite, dès lors que le gouvernement a adopté la procédure accélérée, ce sera un nouveau vote fin juin et sans doute une adoption définitive du texte début juillet. Pour en parler, Adrienne Charmé, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes la coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net. Vous êtes l'une des associations les plus en pointe contre ce projet de loi. Quelle est votre réaction ce soir à l'adoption du texte par le Sénat?
Bon, c'est pas une énorme surprise. Ce qui est intéressant de voir, c'est que proportionnellement, le Sénat a un peu plus voté contre que l'Assemblée. Et surtout, des groupes politiques ont décidé de voter intégralement contre. Ce qui était moins le cas à l'Assemblée nationale, où on avait une opposition plus diffuse, plus transpartisane. On a eu ici moins d'opposition à droite. Par contre, des groupes à gauche qui se sont beaucoup plus mobilisés contre le texte dans les débats et au moment du vote.
Et on voit déjà circuler sur Twitter la liste des 68 personnes ayant voté contre, avec des remerciements chaleureux pour bien marquer le coup, bien souligner que ces gens-là auront dit non. Ils auront dit non à quoi, alors, d'après
alors,
vous?
Ils auront dit non à une loi qui instaure pour la première fois en France un encadrement général de ce qu'est le renseignement, qui donc donne des pouvoirs aux services de renseignement extrêmement larges, non seulement en matière de terrorisme, mais aussi sur tout ce qui concerne la défense et la promotion des intérêts économiques et industriels de la France, mais aussi sur les questions de violence collective et de paix publique, ce qui inquiète énormément notamment tous les militants partis politiques un peu radicaux.
Qui peuvent vouloir manifester dans la rue, par exemple.
Ou avoir des opinions politiques radicales. Mais c'est aussi un projet de loi qui vise à faire respecter, adopter, promouvoir les engagements de politique étrangère de la France, ce qui pose question quand on sait qu'on a une politique étrangère parfois fluctuante. Notamment avec des pays qui, en ce moment, sont assez troublés. Bref, un champ d'action des services de renseignement très grand, une légalisation massive des pratiques illégales des services de renseignement. On nous a dit, on faisait ça dans l'illégalité, maintenant il faut tout légaliser, donc sans se poser de questions. La mise en place de techniques de surveillance extrêmement larges, et puis un contrôle que nous estimons beaucoup trop peu efficace d'une commission qui donnera un avis consultatif, le pouvoir restant dans les mains du Premier ministre.
Alors, on est également en ligne avec Frédéric Carbone, notre correspondant à Washington. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir.
On va commencer avec vous, puisque dans le débat français est très vite apparue l'idée que la République se dotait d'un Patriot Act, c'est-à-dire le repoussoir américain absolu, synonyme de surveillance de masse aux marges de la loi. Rappelez-nous Frédéric, en quelques mots, ce que permet le Patriot Act.
Écoutez, c'est la loi qui a mis en place toute une justice d'exception, votée après les attentats du 11 septembre 2001. Et là, il y avait un élu qui avait dit non. Un seul, pour tout le Congrès. C'est un texte qui donne tout pouvoir ou presque aux agences de renseignement et aux équipes antiterroristes en termes de surveillance, perquisition, détention. Ensuite, l'idée étant que la justice traditionnelle est trop lente, mais trop de contraintes, donc plus de nécessité d'autorisation en bonne et due forme. C'est le cas notamment pour les écoutes. Pas besoin de démontrer non plus de lien formel avec le terrorisme. FBI, CIA, NSA, ça peuvent donc agir vite avec un filet très large, et c'est comme ça que se retrouveront dans la prison de Guantanamo des gens arrêtés en Afghanistan qui avaient un rapport très lointain avec Al-Qaïda.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que le Patriot Act est revenu dans l'actualité américaine la semaine dernière. Pour quelle raison exactement ?
Tout simplement parce que tous les 5 ans, ce texte doit être rediscuté, le budget revoté pour que les programmes soient reconduits. Là, ça tombait le 1er juin. Jusqu'à présent, c'était quasiment une formalité. Mais là, pour la première fois sans doute, et largement, il faut le dire, du fait des révélations d'Edward Snowden, il y a eu un vrai débat et le Congrès, en fait, a adopté la disposition la plus contestée, celle dont tous les citoyens américains peuvent se dire qu'un jour, peut-être, ils en seront victimes. C'est la collecte massive aveugle de données personnelles, mails, contacts, listings de personnes appelées, collecte et conservation que pouvait effectuer la NSA. Désormais, ce sera interdit, mais ces données seront quand même disponibles auprès des opérateurs téléphoniques, réforme souhaitée par Barack Obama et qui a fait l'objet d'un compromis après de très longues discussions au Congrès.
Donc vous nous dites, Frédéric, si je comprends bien, que le Patriot Act n'a pas été abrogé, qu'il a été ripolliné à la marge.
Ah oui, absolument. Même si le Patriot Act, nouvelle formule, s'appelle Freedom Act, l'essentiel des programmes votés après le 11 septembre demeure, vous l'avez compris, ce qui est supprimé au nom de la liberté individuelle, c'est simplement la collecte de ce qu'on appelle les métadonnées, ces milliards d'informations dont parfois d'ailleurs la NSA ne sait pas quoi faire. Le reste, écoute, détention, perquisition, ça bouge pas. Faut savoir que le rédacteur du Patriot Act lui-même avait dit que cette collecte était le résultat d'une dérive, qu'elle n'était pas prévue dans le texte, et de nombreux experts indépendants dans le domaine du terrorisme disent que ça n'est absolument pas efficace, que ça n'a pas permis d'empêcher d'attentats.
Frédéric, je donnais la couleur du vote aujourd'hui au Sénat, comment les différents partis français avaient voté. Quelle majorité a voté ce ripollinage du Patriot Act ?
Écoutez, c'est intéressant parce que on l'a dit, tout part de Snowden en fait et de l'engagement de Barack Obama de revoir cette surveillance généralisée, et les moteurs de la réforme au Congrès américain ont été un peu les deux extrêmes, la gauche du Parti démocrate au nom des principes de la démocratie et l'aile libertarienne du Parti républicain au nom là de la liberté individuelle sacrée et de la non-intervention absolue de l'État. Finalement, une majorité des républicains s'est ralliée à ce compromis qui met pas, franchement, on l'a dit, en péril le travail des agences de renseignement, mais vous avez des voix quand même qui s'élèvent pour dire que c'est un très mauvais signal dans une période où la menace terroriste reste forte.
Alors, autre question, est-ce qu'on est censé croire à ce Liberty Act ou derrière le ripollinage, ce sera surveillance as usual?
Bah déjà, on va attendre que la réforme soit appliquée.
Ouais.
Les opérateurs téléphoniques ne sont pas enchantés d'avoir à se charger de la conservation des données qu'ils livreront désormais au cas par cas. Ils ont demandé, obtenu 6 mois pour que ce Freedom Act soit en vigueur. Après, c'est toujours le même problème. Votre invité en disait un mot, celui du contrôle. Il y a toujours une place minimale laissée à la justice, on va dire, normale. La question de l'autorisation de mise sur écoute et de consultation des données personnelles passera encore par des tribunaux militaires, sur demande express de la NSA. Pas question de faire de l'obstruction. Donc voilà. On vit d'un peu une armoire géante, assez poussiéreuse, sans doute pas très efficace, mais pour autant, c'est pas le règne de la transparence, on n'ouvre pas les portes et les fenêtres de la maison NSA.
Un dernier mot, Frédéric, concernant le regard américain sur le débat français et la loi renseignement votée aujourd'hui au Sénat. Le New York Times y est allé dans ses éditoriaux absolument au mortier contre la France.
Oui, notamment dans un texte titré « La propagation de la surveillance ». L'histoire a démontré, écrit le journal, que les services secrets ont tendance à outrepasser leur mandat quand on leur donne de tels outils. Et en plus, et ça c'est valable en France comme aux États-Unis, quand des démocraties élargissent leur arsenal antiterroriste, cela donne des arguments au régime répressif pour être encore plus Big Brother. Attention à la précipitation, aux lois de circonstance, dit le New York Times. Effectivement, vous l'avez compris ici, il a fallu attendre près de 15 ans et les révélations d'un ancien contractuel de la NSA pour qu'un vrai débat émerge.
Merci Frédéric, restez avec nous et intervenez quand vous le souhaitez dans ce débat. Adrienne Charmet, sur l'aspect américain, quelle est votre lecture à ce que vient de dire Frédéric Carbone ?
Bon, je suis tout à fait d'accord avec lui sur l'aspect assez modéré de la réforme du Patriot Act. En revanche, ce qui me semble intéressant, c'est de voir que le sens du vent a vaguement commencé à tourner. Et ça, c'est important. C'est important de voir que les révélations Snowden n'ont pas servi à rien. Ce qui est d'autant plus attristant quand on regarde ce qui se passe en France, où on a ce recul de 15 ans de Patriot Act américain, où on voit que les parlementaires et le gouvernement, malgré tout ce qu'on sait, malgré tout ce qu'ils savent, malgré le timide recul américain, vont eux droit devant dans l'autre sens. Et ça, c'est assez inquiétant. Et c'est pas le cas uniquement en France. On a des déclarations, notamment de Cameron en Grande-Bretagne, qui vont un peu dans le même sens. On a l'impression que la leçon n'est pas tirée. On sait que ces programmes de surveillance massive sont pas efficaces, qui sont très liberticides, très intrusifs dans la vie privée. Et pour autant, on y va quand même. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incompréhensible.
Ça, c'est l'effet 7 janvier, attentat à Paris, plus que l'effet 11 janvier.
Oui, malheureusement, on savait que ce texte de loi sur le renseignement allait arriver. Le gouvernement a choisi la procédure d'urgence, qui est une très mauvaise chose quand on discute de liberté fondamentale, a vendu ce projet de loi et l'a défendu en séance à l'Assemblée et au Sénat avec un argument sur le terrorisme extrêmement culpabilisant pour les opposants, en nous disant à nous et aux parlementaires qu'on était irresponsables, alors qu'en fait, on est sur un projet de loi beaucoup plus vaste, qui met vraiment en jeu des grandes questions de démocratie et de liberté, et on regrette énormément l'attitude du gouvernement sur ce projet de loi.
Frédéric Carbone à Washington, un mot ?
Oui, pour confirmer ce que dit votre invité sur le fait que les choses bougent ici, même si la surveillance reste forte, il y a un acteur important dans le changement des mentalités, et elle le sait très bien sans doute, ce sont les acteurs d'Internet, ce sont les grands géants de l'Internet américain qui, après les révélations Snowden, ils ont vu tout simplement que la NSA venait piocher dans tous les fichiers, dans tout ce qu'ils avaient, que donc ça mettait en péril leur relation avec les clients, les usagers d'Internet, et ils ont été un groupe de pression extrêmement fort pour que les choses bougent.
Oui, et on a vu notamment, c'est Hélène Chevalier qui nous en parlait hier ou la semaine dernière, la prise de position du patron d'Apple, Tim Cook, disant très clairement que les données, c'était fini. On ne les partageait pas, on n'ouvrait pas les portes et les fenêtres. Ça, là-dessus, je vous vois sourire, Adrienne Charmé, vous y croyez moyennement ?
Je ne sais pas quelle est la part de défense des libertés et la part d'intérêt économique de grands acteurs qui savent très bien que la confiance est quelque chose de majeur.
Pour vendre des appareils.
Voilà. Probablement, la meilleure solution serait d'avoir des modèles économiques qui ne reposent pas sur la collecte massive de données à but publicitaire. Mais on a vu aussi en France, les hébergeurs s'inquiéter très fortement du projet de loi parce que, comme je le disais, la confiance dans l'acheminement d'informations et dans les outils numériques est absolument fondamentale. Et on peut voir, et on craint, et ils craignent et ils voient déjà des clients qui s'inquiètent de voir leurs données mises à disposition des services de renseignement et qui voudraient quitter la France.
Alors justement, le texte prévoit que les opérateurs télécoms, les hébergeurs et les réseaux du net installent des boîtes noires contenant des algorithmes destinés à filtrer les communications. C'est une citation de la dépêche AFP. Traduction.
Très compliqué de savoir ce que vont être ces boîtes noires. Ce qu'on a compris du texte, parce que le gouvernement se retranche derrière le secret défense pour ne pas nous dire comment ça va fonctionner, c'est qu'en gros, on va essayer de récupérer dans toutes les données qui transitent sur les réseaux ce qui pourrait faire penser que quelqu'un a un comportement suspect ou qu'il est en relation ou qu'il a une activité en lien avec le terrorisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire globalement qu'on va analyser l'intégralité du trafic de tout le monde, de vous, de moi, de mes parents, de mes voisins, et à partir de ça, détecter sur ces données qui transitent ce qui pourrait faire penser qu'on va se connecter sur un site de propagande djihadiste ou qu'on est en relation avec des gens qui sont déjà surveillés. Le gouvernement nous dit, mais vous inquiétez pas, ce sont des algorithmes, on n'est pas en train de rentrer dans votre vie privée. En réalité, il y a une collecte massive et un traitement massif des données personnelles de l'intégralité des internautes français.
Mais qui peut vraiment concerner tout le monde.
Le gouvernement prend l'analogie d'une botte de foin. Quand vous cherchez une aiguille dans une botte de foin avec un détecteur de métaux, vous êtes obligé, enfin votre détecteur de métaux va à chaque fois qu'il rencontre un obstacle dire ça c'est de la paille, ça c'est du métal. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que l'intégralité de la botte de foin est scannée. Vous comprenez l'analogie ? Ça veut dire que pour ces boîtes noires, pour détecter des comportements suspects, il faut regarder l'intégralité du comportement de tout le monde.
Donc c'est pour vous une atteinte claire, nette et précise à une des lois fondamentales de la démocratie.
Oui, et pas que pour nous. C'est-à-dire qu'on a toute une jurisprudence européenne qui nous dit que la collecte massive de données sur des personnes qui ne sont pas suspectes a priori d'avoir commis des infractions est une atteinte lourde à la vie privée. Donc il n'y a pas que des personnes un peu inquiètes comme nous qui le disent. Cette collecte massive est une atteinte qu'on ne voit pas parce qu'on a l'impression que ce qui se passe sur Internet touche assez peu notre vie réelle, mais avoir l'intégralité l'intégralité de vos contacts mail ou téléphone, avoir l'intégralité de votre recherche, de votre navigation sur Internet, de vos centres d'intérêt culturels, religieux, sexuels, politiques, etc., qui est susceptible à un moment d'être scanné pour pouvoir détecter si vous êtes un gentil ou un méchant, ça c'est une atteinte énorme à la vie privée.
Alors Adrienne Charmet, toujours selon l'AFP, les services pourront utiliser des valises espionnes, jusqu'ici réservées à la justice, et qui permettent de capter des conversations dans un rayon de 500 mètres. À quoi ça sert ?
Ça sert probablement à détecter les réseaux et les mises en relation des personnes surveillées avec d'autres personnes. Ça veut dire concrètement que si on place une de ces valises, qui donc récupère l'intégralité des données des téléphones portables sur un territoire donné, vous placez une valise, je ne sais pas, à la gare du Nord aux heures de pointe parce que vous avez un suspect qui se balade dans le coin, vous savez qu'il est en train d'arriver. Ça veut dire que l'intégralité des données des téléphones portables des personnes transitant par la gare du Nord en heure de pointe rentre dans ces valises.
Alors, pour faire bonne mesure, le texte prévoit également la création d'une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, qui fixera la durée de conservation des données selon leur mode d'interception, toujours citation de l'AFP, et puis la création d'un statut de lanceur d'alerte. Est-ce que, d'après vous, Adrienne Charmet, ça suffit à rééquilibrer au moins à la marge les choses ?
Alors, cette CNCTR, elle va avoir un avis consultatif, c'est-à-dire qu'elle sera consultée avant la mise en place des interceptions par les services du Premier ministre. Elle donne un avis en disant « nous on est plutôt pour, nous on est plutôt contre ». Ensuite, ce sont les services du Premier ministre qui décident s'ils le font ou s'ils le font pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent parfaitement passer outre l'avis de la CNCTR. Elle, a posteriori, elle aura la capacité de regarder les listings d'interception des services de renseignement et puis de faire remonter au Conseil d'État si jamais elle trouve que c'est pas bon. Donc, moyen pour la surveillance, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas empêcher en amont la mise en place de techniques de surveillance et en cas d'urgence, elle n'est pas consultée. Pour ce qui est du lanceur d'alerte, il y a une procédure qui dit le lanceur d'alerte, il est forcément...
membre des services de renseignement voyant des choses illégales se passer.
Il faut absolument qu'il soit membre des services de renseignement. Il n'a le droit de reporter qu'à ses supérieurs ou à la CNCTR. C'est comme si on disait que Snowden aurait dû reporter à ses supérieurs. Autant dire que ça n'a aucun effet. Pour les gens qui travailleraient, par exemple, chez des opérateurs et qui verraient des choses illégales, au contraire, la loi pénalise lourdement la révélation de dispositifs de collecte, y compris si ceux-ci sont illégaux. Donc on n'est pas du tout dans une protection sérieuse des lanceurs d'alerte.
Bon, passons à un autre plan maintenant. Est-ce que la démocratie est en danger ou est-ce qu'elle l'est potentiellement ?
Le principe de la surveillance indiscriminée, de la surveillance massive, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne savez pas si vous êtes observé. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour la démocratie. Si vous vous dites, moi tel sujet m'intéresse, mais j'ai un petit peu peur que ça fasse biper les boîtes noires, pour donner une analogie un peu visuelle, vous allez vous auto-censurer. L'action politique, la réflexion politique, l'action culturelle, la création, la liberté d'expression est quelque chose qui est vraiment mis en danger par ce type de loi. Les journalistes sont également en danger et c'est un pilier de la démocratie à partir du moment où ils ne seront pas identifiables dans cette surveillance électronique. On ne sait pas sur leur adresse IP qu'ils sont journalistes.
Donc vous dites que ces outils sont intrinsèquement liberticides et pas qu'ils le deviennent s'ils tombent entre de mauvaises mains. Ce qu'on a pu entendre aussi comme type de critique adressée à ce texte.
Alors, ils sont intrinsèquement liberticides parce qu'ils mettent la population sous un régime de surveillance diffuse ou d'impression de surveillance diffuse sans qu'on sache jamais si on est sous surveillance ou si on ne l'est pas. Et sur des pans entiers de notre vie. C'est pas la même chose qu'une écoute téléphonique. Quand on regarde tout ce que vous pouvez faire sur Internet, on atteint des pans bien plus importants de votre vie. Et si cela tombe entre de mauvaises mains, ce sont l'ampleur ou les finalités d'utilisation de ces techniques qui risquent d'être bien plus massives. Donc, en soi, c'est quelque chose d'oppressant, de liberticide, et entre de mauvaises mains, ça peut donner ce qui s'est passé dans certaines dictatures. Les technologies qui vont être utilisées sont des technologies qui ont pu être utilisées dans des pays comme la Libye ou comme la Syrie.
De votre point de vue à la quadrature du net, quelle serait la formule idéale, la mesure équilibrée entre, disons, le respect des libertés publiques et la surveillance normale dans un état de droit?
Mais pour nous, ce qui pose un énorme problème, c'est essentiellement la surveillance de masse. La surveillance ciblée, elle est compréhensible. Elle peut mettre en œuvre, sous le contrôle judiciaire, des techniques de surveillance extrêmement intrusives, parfois, ce qui se fait déjà, mais sous un très fort contrôle judiciaire, avec un contradictoire, avec des recours, etc. Ça, c'est quelque chose qui est dans le cours normal de l'équilibre entre les libertés et la sécurité. Encore une fois, sortons du prisme terroriste. On a également toute la partie sur l'espionnage vers l'extérieur. Là, on a quelque chose qui rend les services français en capacité d'être extrêmement agressifs. Est-ce que c'est réellement ce qu'on veut? Est-ce que donner l'immunité pénale totale aux agents à l'étranger, c'est pas une escalade du renseignement tous azimuts qui est pas bonne? Pour nous, ce qui est important, c'est de cibler la surveillance, de donner un contrôle extrêmement fort aux juges judiciaires ou aux instances de contrôle, d'avoir des capacités de recours et d'avoir un contrôle de la proportionnalité, c'est un mot très important dans ces questions-là, de la proportionnalité entre les techniques de surveillance qui sont mises et les finalités qui sont poursuivies.
Adrienne Charmet, on a pu dire pendant très longtemps que la France incarner cet équilibre justement entre respect des libertés publiques et nécessaire travail des services, notamment dans le cadre de l'antiterrorisme. Quel autre pays vous semble aujourd'hui l'incarner mieux ?
Difficile à dire. On a quand même une dérive, notamment en Europe, assez mauvaise sur ces questions de surveillance et notamment de surveillance numérique. Donc c'est très difficile de vous dire quel pays l'incarnerait mieux. On a des pays et notamment les ex-pays soviétiques qui ont une préoccupation extrêmement forte de l'intrusion dans la vie privée parce que malheureusement ils savent de quoi ils parlent. Mais on a quand même globalement au niveau européen quelque chose qui va pas très bien. Aux USA, on voit que le vent tourne un petit peu. Au Canada, il y a des lois dangereuses qui sont votées aussi en ce moment.
Quel type de recours sont possibles en France désormais ?
Alors désormais, après la promulgation de la loi, on sait qu'un certain nombre de députés et probablement de sénateurs vont saisir le Conseil constitutionnel. Nous-mêmes, sur une loi antérieure qui a de forts liens avec la loi renseignement sur la loi de programmation militaire, on a une question prioritaire de constitutionnalité qui est en cours, qui vient d'être acceptée au Conseil constitutionnel. Donc on a des recours juridiques de faire valider ou invalider par le Conseil constitutionnel cette question de l'intrusion massive dans la vie privée. Ensuite, malheureusement, à chaque citoyen d'essayer de se protéger en utilisant des outils de chiffrement ou d'anonymisation.
Un dernier mot, Frédéric Carbone, aux États-Unis.
Oui, pour vous dire que les débats évoluent, que les mentalités évoluent, mais que aussi les techniques de surveillance s'adaptent à des nouvelles menaces. On a appris, par exemple, ces jours-ci, dans la presse américaine, c'est un programme qui n'était absolument pas connu, qu'en 2012, Barack Obama et le gouvernement américain ont donné des moyens de surveillance renforcés aux agences de renseignement diverses et variées pour lutter contre le piratage informatique. Vous savez que aujourd'hui, c'est clairement une des menaces les plus fortes. En tout cas, il y a des piratages de gouvernements chinois, par exemple, récemment sur des ordinateurs américains. Eh bien, on a appris qu'il y avait eu des moyens généralisés de surveillance encore plus étendus pour lutter contre ça. Donc, chaque système s'adapte aussi à l'époque.
Merci Frédéric Carbone, correspondant de France Inter à Washington. Merci beaucoup Adrienne Charmet de la Quadrature du Net d'être venue ici en studio à France Inter. Il est 18h40, on file en Corée du Sud.
Un jour dans le monde sur France Inter.
En Corée du Sud, où se trouve la seule entreprise au monde de clonage commercial de chiens. Elle s'appelle la fondation Suham Biotech, elle est basée à Séoul et elle propose à des riches clients du monde entier de cloner leur animal de compagnie disparu. Prix d'une copie de Médor, 100 000 dollars, soit 90 000 euros. Alors Suham Biotech produit ses clones de chiens à la chaîne, activité qui soulève d'ailleurs quelques inquiétudes car le fondateur de l'entreprise n'est autre que le très controversé docteur Hwang Woo-sok, généticien mis au banc de la communauté scientifique pour avoir falsifié des travaux il y a 10 ans. Écoutez ce reportage à Séoul de Frédéric Ojardias.
Les chiots de 1 à 7 sont des chiens policiers. Ce sont tous des clones du même chien. Suam Biotech produit une centaine de clones de chiens par an. David Kim, porte-parole de l'entreprise, explique ce que doivent faire les clients qui veulent acquérir un clone de leur animal de compagnie.
The procedure is very simple.
La procédure est très simple. Si votre chien meurt soudainement, vous devez conserver son corps dans le meilleur état possible. Donc, nous recommandons d'envelopper le corps de votre animal dans des serviettes mouillées et de le placer au réfrigérateur. C'est important de ne jamais congeler le corps. Beaucoup de clients font cette erreur. La congélation abîme les cellules. Il faut ensuite prendre des échantillons de peau et nous envoyer ces échantillons par la poste.
Laboratoire de Séoul, on extrait de ces cellules de peau le noyau qui est ensuite inséré dans un ovocyte, une cellule sexuelle femelle. Cet ovocyte est alors placé dans l'utérus d'une mère porteuse. Deux mois plus tard, naîtra un chiot copie conforme de l'original. Nous visitons la nurserie où une dizaine de chiennes, les yeux abattus, sont allongées au fond de box individuelles.
Oui, donc ce sont les mères porteuses. Celle-ci est enceinte, donc elle est très sensible maintenant. Ça, ce sont les chiots d'un client américain. Ils viennent juste de naître.
Et quand les envoyez-vous aux États-Unis ?
Au bout de deux mois. Le délai de livraison dépend des procédures de quarantaine de chaque pays.
Suam Biotech clone aussi pour la police. Les bergers allemands qui reniflent les bagages à l'aéroport international de Séoul sont des clones de Queen, légendaire chien policier coréen. Et David Kim est très fier des résultats de son entreprise.
Notre taux de réussite oscille entre 35 à 40%. Nous avons le taux le plus élevé de tous les autres instituts de clonage. Grâce à notre recherche, nous avons réussi à rationaliser nos processus. En matière de clonage de chiens, nous sommes presque une usine.
Le fondateur de Suam Biotech est le docteur Wang Woo-sok, un personnage sulfureux condamné pour avoir falsifié ses recherches sur les cellules souches et sur le clonage d'embryons humains. Il continue pourtant ses recherches qu'il finance aujourd'hui grâce au clonage commercial. Parmi ses nombreuses activités, il cherche aujourd'hui à ressusciter un mammouth à partir des cellules d'un animal congelé dans la toundra russe. Le docteur Oh Il-hwan est président de l'Association coréenne de la recherche sur les cellules souches.
En tant que scientifique, nous ne faisons plus confiance au docteur Wang. Nous ne cherchons plus à valider ses recherches, ni à enquêter sur ses résultats. Nous le laissons à part. Ce qu'il fait, ça appartient au secteur privé. Je vous demande, une fois que vous avez un ovocyte avec de l'ADN de mammouth, dans quel utérus vous le mettez ? Où est-ce que vous trouvez un utérus de mammouth ?
Eux, ils disent qu'ils utiliseront une éléphante.
Écoutez, je ne crois pas que je doive répondre à une telle question de fiction. C'est amusant, c'est du domaine de l'imagination. Mais je n'ai pas à donner un avis sérieux à ce sujet.
Très critiqué, le docteur Wang Woo-sok continue pourtant de recevoir de nombreux soutiens économiques et politiques. Il a aussi signé un partenariat avec une grande entreprise chinoise de biotechnologie.
Voilà, si vous trouvez un utérus de mammouth, n'hésitez absolument pas à contacter Frédéric Ojardias, notre correspondant en Corée du Sud.
Thanks so much for that report.
Partout ailleurs. Bonsoir Eric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Vous nous en parliez déjà hier et vous y revenez aujourd'hui encore. Le Burundi.
45e jour de manifestation, Nicolas, et une crise chaque jour plus aiguë. La commission électorale du Burundi a proposé hier soir un nouveau calendrier électoral, la présidentielle fixée au 15 juillet, quand les chefs d'État d'Afrique de l'Est préconisaient un report d'un mois et demi. Depuis 45 jours, les Burundais manifestent contre le troisième mandat que brigue Pierre Nkurunziza, actuel président en exercice, qui n'a pas le droit de se représenter représentés au dire de la Constitution. Les élections sont donc reportées. Kurunziza, lui, est toujours candidat. Mais que vaut la décision d'une commission électorale dont la moitié du bureau a préféré l'exil après que des menaces de mort aient été proférées à leur encontre? Que vaut cette décision après l'abandon de l'Union européenne? Bruxelles qui a investi 6 millions d'euros dans une logistique, une infrastructure permettant la tenue d'élections transparentes. Cette mission européenne a plié bagage. Tous les observateurs se sont tirés dans le premier avion, arguant qu'aucune condition n'était réunie pour garantir une élection crédible. Le chef de la mission est déjà arrivé à Bruxelles. José Antonio de Gabriel écrit dans son rapport « Il existe une atmosphère de peur, d'intimidation généralisée. Le risque sécuritaire est grand. Le droit de manifester n'est plus garanti. Il y a un problème grave qui est la fermeture de médias. Cette fermeture a coupé les voies de communication naturelles pour la campagne électorale dans un pays comme le Burundi qui vole en éclats. » Les journalistes locaux, c'est vrai, se cachent, partent à l'étranger. Mais la presse internationale, ce n'est pas mieux. Elle subit elle aussi des intimidations, difficultés avec les accréditations, les visas, les passeports, pressions diverses, soupçons portés sur la probité journalistique, soupçons de liens avec les services secrets étrangers, fixeurs des journalistes interpellés, enlevés, menacés. Mais il reste les réseaux sociaux et l'Afrique entière suit les événements du Burundi en direct. Le continent africain est jalonné dans les 3 ans qui viennent de fin de mandat, d'échéances électorales, pouvant mettre un terme aux régimes archaïques. Au Gabon, par exemple, Ali Bongo se représentera en 2016, alors que la Constitution lui interdit. Et Marc Ona, du mouvement « Ça suffit comme ça », suit à la loupe le Burundi, persuadé que se joue là un nouveau Burkina Faso, une société civile qui laisse entendre sa voix.
On ne peut pas être aussi sourd et aussi indifférent face à la misère des peuples africains. On réalise tout simplement que c'est juste une sorte de mise en scène. Une mise en scène démocratique. On organise une élection pour paraître comme étant un État démocratique, juste pour l'image extérieure. On va tout de suite piétiner la Constitution, on va la transformer en serpillière et on peut en modifier comme on veut. Et donc, du coup, la population se lève pour dire nous ne sommes plus là pour accepter vos manigances pour se maintenir au pouvoir. D'où les soulèvements qu'on constate. Les soulèvements font suite à ce mépris, à cette indifférence totale des dirigeants. On ne peut plus faire marche arrière. La démocratie n'est pas un luxe, contrairement à ce que Chirac avait déclaré en Côte d'Ivoire. La démocratie n'est pas un luxe en Afrique. La démocratie, c'est une réalité, ce sont des valeurs universelles que les Africains aussi voudraient partager avec le reste du monde. Il faut absolument que ceux qui dirigent comprennent les petits sons qui viennent du fin fond de la brousse.
Mais avec l'Union européenne partie, la presse internationale bousculée, la répression policière l'emporte, des miliciens armés patrouillent au Burundi. Dès qu'un groupe d'opposants se réunit, seulement 10 personnes par exemple, aussitôt, ils tirent à balles réelles pour les disperser. Le nombre de manifestants baisse et pour cause, 50 morts, des centaines de blessés, d'autres en prison et un climat de terreur. Aujourd'hui, au 45e jour, les barricades ont disparu, les policiers n'hésitent plus à s'aventurer dans les quartiers, entrent dans les maisons, les écoles, arrêtent des enfants qu'ils soupçonnent de lien avec l'opposition. Les milices allument des feux pour embraser des rivalités communautaires. Après plus d'un mois de contestation, les habitants des quartiers frondeurs sont aussi pris à la gorge financièrement. La plupart n'ont pas travaillé depuis des semaines, certains par choix, d'autres contraints parce que l'activité économique est paralysée et que leurs réserves sont épuisées. Des gens fatigués, un mois que personne ne travaille, n'a plus rien à manger et les balles sifflent et l'armée a disparu des rues, elle qui jouait un rôle d'arbitre. Sous la pression de la communauté internationale, la limitation du nombre de mandats a donc été actée. Sauf que si on compare avec le Togo, par exemple, qui est un exemple important, parce qu'on est vraiment plus proche de la situation togolaise. Au lendemain de la mort de Niasimbe, les Togolais étaient descendus dans la rue pour protester contre les élections truquées qui avaient porté au pouvoir le fils du défunt. La police avait chargé 500 morts et Fort Niasimbe est toujours là.
Ce front a organisé une série de manifestations de rue qui ont été des mobilisations de millions de personnes dans les rues de Lomé. Personne n'en a véritablement parlé. Mais ces mobilisations qui étaient censées durer 3 jours ont été, en général, à partir du second jour, violemment réprimées et se sont dispersées. Les mouvements se sont poursuivis, mais c'est vrai qu'avec la force de la répression, ces mouvements ont eu tendance à s'étioler. Et surtout, l'événement qui a porté un coup véritablement dramatique à ces mobilisations, ce sont les incendies de marché qui ont été organisés en fait par des proches du pouvoir en place en janvier 2013. Et ces incendies ont été attribués aux représentants de l'opposition, et c'était véritablement une manipulation atroce, horrible, qui avait pour but de mettre les principaux leaders de l'opposition en prison, en perspective des élections législatives qui se préparaient pour le mois de mai 2013 et qui ont eu lieu en juillet.
Et Fonia Xingbe a été réélu le mois dernier pour 5 ans, en toute légalité, puisque la Constitution lui permet. Pardon Nicolas, mais aujourd'hui le Burundi est plus proche de cet état de fait. Personne ne semble en mesure d'arrêter Nkurunziza. Il se présente à des élections que personne ne peut contrôler à part lui. Et si personne ne bouge, les colonnes de réfugiés qui fuient les violences continueront de grossir et de prendre le chemin du Nord.
Éric Valmire, merci. Et c'est la fabrique du Nouveau Monde. Bonsoir Dominique André.
Bonsoir Nicolas.
Ce soir, le portrait de Fatoumata Kébé, la space girl du Mali, sélectionnée par l'Agence spatiale européenne et l'agence de photojournalisme SIPA Presse. Elle incarne la génération des femmes qui veulent s'imposer dans l'espace. Une exposition leur sera consacrée dans quelques jours à l'Observatoire de Paris où elle a été recrutée, Dominique.
Oui, Fatoumata a 29 ans. Elle termine en ce moment son doctorat d'astronomie. Elle partage son temps entre l'université Pierre et Marie Curie et l'Observatoire. Elle vient aussi de passer un an au Japon pour se préparer à son futur métier d'astronome. Un métier, enfin, on devrait plutôt dire une passion, car Fatoumata, la franco-malienne, aime citer Confucius. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.
Je ne sais plus c'était à quel âge, mais c'était très jeune, parce que quand j'étais en primaire, je savais déjà que je voulais travailler dans l'astronomie. J'ai vu dans des livres des images des planètes, des étoiles, des astres. Je trouvais ça tellement beau que je me suis dit, plus tard, c'est avec ça que j'aimerais travailler, en fait. La tête dans les étoiles. Alors, j'étais douée en maths, enfin, ou je pensais. Enfin, en tout cas, ça passait quand j'étais au collège. En terminale, j'ai eu de gros soucis. Donc, j'ai pas très bien réussi l'épreuve de maths au bac. Mais par contre, quand je suis arrivée à l'université, là, mes notes sont très, très bien remontées. Là, je me suis dit, en fait, je suis pas si nulle que ça en maths. En tout cas, c'est sûr qu'il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir avoir la patience de chercher, sans forcément trouver. Des fois, vous mettez 2 mois à trouver quelque chose qui va vous sembler ridicule au final, mais c'est la recherche. Et pour pouvoir tenir le coup sur du long terme, c'est là que je me dis, il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait, en fait. À Bamako, c'est trop pollué, malheureusement. Par contre, quand vous allez dans les villages, vous avez un ciel qui est juste magnifique. D'ailleurs, je reviens du Mali, j'y étais là, enfin, je suis revenue hier, en fait. J'ai un télescope que j'ai ramené avec moi. Donc je les regarde assez bien. C'était surtout les cratères de la Lune, parce que j'aime beaucoup cet astre. J'espère y aller un jour. Je pense que c'est peut-être l'histoire derrière, en fait, de me dire mais comment ces cratères se sont formés, etc. Cet astre qui tourne autour de nous à un terme bien fixé, tous les 29,5 jours. Enfin, c'est des choses comme ça qui me font rêver, en fait. Et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir voir un jour les restes des missions Apollo américaines. Ils ont laissé des traces de leur passage. Par exemple, c'est pas top, mais leurs excréments. Je sais que les Américains appellent ça les vestiges de l'arrivée de l'être humain sur la Lune. Et ils veulent préserver ces sites pour plus tard. Et en plus, si on pouvait les voir, ce serait bien pour mettre un terme final à toutes les théories du complot, etc., qui disent que l'homme n'est pas allé sur la Lune.
On l'entend, Fatoumata Kébé se prépare donc à un métier nouveau dans un espace, Dominique, très encombré. Le mois dernier, un vaisseau spatial russe s'est désintégré au-dessus du Pacifique.
Oui, il y a beaucoup de déchets dans l'espace. D'ailleurs, quelques chiffres que nous fournit Fatoumata. 20 000 déchets de plus de 10 cm, 700 000 entre 1 et 10 cm. Et 125 millions de déchets inférieurs à 1 cm, ça fait vraiment beaucoup de monde dans l'espace. D'ailleurs, cette exploitation de l'espace a débuté en 57. C'est devenu une préoccupation internationale et Fatoumata veut être astronome, femme de ménage de l'espace.
Il y a des objets qui sont vraiment retombés sur Terre. Au Zimbabwe et en Arabie Saoudite, c'est arrivé. D'ailleurs, au Zimbabwe, c'était un morceau d'une fusée américaine qui avait été lancée en 1975. Plusieurs entreprises et agences ont proposé des solutions de nettoyage de l'espace, mais aucune n'a vraiment été testée dans les conditions réelles. Mais tout le monde se prépare à aller nettoyer l'espace parce que la NASA prévoit qu'à l'horizon 2025, on ne pourra plus envoyer d'objets dans l'espace tellement ce sera encombré de débris. Il y en a qui proposent de construire des lasers qui sont basés sur Terre et qui tirent dans l'espace vers des débris. Et aussi une autre solution, c'est de coller un objet sur un débris et l'objet se transforme en ballon. Et en fait, il va aussi pousser le débris à rentrer sur Terre. Donc en fait, je simule des explosions et des collisions dans l'espace. Par exemple, vous avez deux objets, ils rentrent en collision. Ça crée 40 000 débris. Je vais regarder comment ces 40 000 débris vont évoluer avec le temps, en fait, autour de la Terre. C'est ça, voilà. Mon travail.
L'astronome franco-malienne Fatoumata Kébé découvrait son portrait sur les grilles du jardin de l'Observatoire de Paris avec 17 autres femmes astronomes du monde entier. Une exposition qu'on retrouve aussi sur le site de France Inter à partir d'aujourd'hui avec cette page magnifique de Margot Duquesne, Autopsie d'une photo.
Merci beaucoup Dominique André. 18h56.
Un jour dans le monde.
Il suffit de ne pas perdre pour gagner.
Alors ça, on va y venir, mais quoi ?
Une seule hypothèse.
Quelle image renvoyons-nous
en héros de Top Gun ?
Sur France Inter.
C'est l'édito d'Alain Frachon. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
Elle est passée inaperçue en France. Vous nous parlez ce soir de la dernière étude d'opinion de l'Institut américain Pew Research Center en Europe.
Cette étude peut surprendre comme un rayon de soleil dans un trop long hiver. Au baromètre de la confiance dans l'Union européenne, l'aiguille remonte vers le haut. En dépit de la crise de l'euro, en dépit de la percée des partis eurosceptiques, voire europhobes, en dépit de la guerre aux portes de l'Europe, en dépit de tout cela, il y a un renouveau du sentiment européen. C'est ce que nous dit ce très sérieux institut de recherche qui, depuis plusieurs années, scrute chaque année l'humeur d'un vaste échantillon de personnes dans 6 des plus grandes économies de l'Union. Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie et Pologne. On était au plus bas en 2013, avec à peine une moitié de sondés se disant favorables à l'Union, on a gagné 10 points en 2015, on est à 61% en moyenne, et dans les 6 pays concernés, une majorité de citoyens se déclare partisans résolus de l'Union européenne. On enregistre des pointes à 72% en Pologne, à 64% en Italie, en Espagne c'est 58%, 55% en France, et largement plus de 51% au Royaume-Uni. Partout, l'Europe a gagné en popularité par rapport à 2013. Credo partagé des répondants, l'intégration européenne est une bonne chose pour les économies nationales. L'opinion européenne est très raffinée. L'étude Pew dit qu'une majorité de personnes interrogées approuvent l'apparition de partis protestataires de droite ou de gauche, formations qui soumettent les vieux partis de gouvernement à la critique. Mais pour autant, ces mêmes personnes ne partagent aucunement le programme de ces partis protestataires. L'euro, volontiers pris en France comme bouc émissaire de nos tragédies économiques et sociales, l'euro donc empoche un taux d'approbation supérieur à celui de l'Union européenne en général dans les 4 pays concernés, Allemagne, Espagne, France et Italie. C'est plutôt une bonne nouvelle, comme disait Confucius.
Merci Alain Frachon. Le journal dans 2 minutes.